Alors, notre premier sujet ce matin, l'habitation. Bon, il y a toute la question du logement. On le voit aussi pour les gens qui déménagent ou qui veulent déménager. Le 1er juillet arrive, puis les chiffres ce matin qui disent que ça va prendre un bout de temps avant de retrouver, en termes de valeur, le marché de l'avant-pandémie. C'est là qui commence.
Donc, il y a une crise à court terme, tu l'as dit, c'est sur le déménagement. Il y a la non-disponibilité des logements à chaque année, mais des fois, c'est peu. Des fois, c'est seulement 150-200, pardon. Cette année, on s'attend au double, minimum au double, plus de 300 personnes qui n'arriveront pas à trouver un logement. La mairesse demande 5 millions au gouvernement du Québec pour gérer l'intermède que, dans lequel ces gens-là vont se retrouver. Donc, remisage de leurs meubles et de leurs effets personnels dans les entrepôts. Puis un séjour à l'hôtel avant de trouver un logement. Il y a aussi, quand on sait qu'il y a quelques centaines qui vont être dans cette situation-là, là, ça veut dire qu'en amont de ça, il y a plusieurs centaines, peut-être des milliers d'autres familles qui vont avoir trouvé des solutions temporaires. Bon, occuper le chalet d'une connaissance ou occuper le sous-sol d'un membre de sa famille, où il y a des centaines de personnes aussi, des centaines de familles qui vont prendre un logement beaucoup trop cher pour leurs revenus en se disant ben ça va durer juste quelques mois puis je vais sortir de là dès que je vais avoir trouvé un autre logement ou un logement beaucoup trop petit. Là, on a vu des situations, là, un 3,5 avec des familles là-dedans. Alors, et aussi, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont déménager beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin pour leur qualité de vie, pour la faisabilité de l'organisation de leur vie de famille. Alors, c'est pas rose, mais ça, c'est le court terme. Puis le long terme, à long terme, là, ça devient beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que la pandémie va faire? Écoute, moi, je pense qu'on pourrait peut-être être optimiste. C'est-à-dire que il y a plusieurs facteurs qui poussent vers une pause de la spéculation. Il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui annonce une baisse des prix de 6 à 11 % des logements neufs, des maisons neuves. Un effondrement des Airbnb, si on le sait, Airbnb ne pourra pas continuer à être en affaires et les gens commencent à remettre les logements sur le marché. On parle de 5000 logements pour la région Ville-Marie-Plateau-Mont-Royal. Il y a le télétravail qui va permettre à beaucoup de gens d'habiter plus loin et donc à moins cher et quand même de rester au travail. Il y a aussi, il y a un truc qui va amener une poursuite de la spéculation, c'est la baisse des taux d'intérêt. Avec la baisse des taux d'intérêt, il y a plus de gens qui vont vouloir acheter une maison. Mais je pense que les autres éléments que j'ai mentionnés vont être plus forts, surtout qu'il devrait y avoir une perte de revenus importante pour des PME et des travailleurs autonomes. Donc, en théorie, avec une baisse de l'économie, il devrait y avoir une baisse des prix. Mais si tu as une baisse des prix et les gens ne travaillent pas, ils ne pourront pas profiter non plus d'un achat.
Fait que quand tu regardes aujourd'hui les 300 ou 400 ménages qui vont avoir de la misère à se loger à Montréal, c'est un symptôme d'un problème qui est plus vaste, là, bien entendu. On le sait, il y a un déficit de logements abordables, de logements sociaux à Montréal. On dit aujourd'hui qu'il en manque probablement 25 à 30 000 sur un parc actuel de l'ordre de 65 000. Le marché de l'immobilier va être en mutation. On s'attendait pas à ça quand on parlait des enjeux de pénurie de logements il y a 6 mois. La COVID vient changer les choses. Tu as mentionné Airbnb. En ce moment, les résultats de la Banque Royale qui ont été publiés hier démontrent qu'un propriétaire sur 7, c'est beaucoup là, 1 sur 7 a choisi de reporter les paiements hypothécaires, donc de bénéficier d'une espèce de break, là, de congé que les banques vont offrir pour le paiement de ton capital. Alors, c'est évident qu'il va avoir un endettement plus important. Il va risque d'avoir des gens qui vont devoir revendre leur logement. Et si aujourd'hui on n'a pas encore vu une baisse du prix des propriétés qui sont en revente parce que les gens pensent encore qu'ils vont être en mesure d'obtenir à peu près le même prix qu'ils croyaient obtenir, la réalité semble être tout autre. 70% moins de ventes au mois d'avril à Montréal que l'année précédente si on voit pas une baisse au niveau du prix actuel, c'est inévitable. Le chômage, les difficultés que les gens vont rencontrer, l'offre supplémentaire par des secteurs qui vont être complètement abandonnés comme Airbnb va faire qu'il va avoir une pression à la baisse de ça. Alors, comment est-ce qu'on règle ça? Pouvez-vous croire que ça fait un an là, maintenant qu'on est commissaire et à chaque fois on parle de ça? Et encore ce matin, je peux vous dire qu'il n'y a toujours pas d'entente entre le provincial et le fédéral pour que le Québec puisse s'approprier sa juste part du 55 milliards de dollars qui a été mis en place par le gouvernement fédéral pour le logement social. C'est toujours pas réglé ce dossier-là. Et si on veut parler de logement abordable, si on veut parler de stratégie, ce n'est pas l'approche 20-20-20 de la ville de Montréal qui va réussir à sauver la situation tant qu'il n'y a pas un deal avec le provincial et le fédéral. Et en passant, l'organisme là, de consultation publique de Montréal, qui est du côté habituellement des groupes sociaux, dit le 20-20-20, c'est pas idéal. On n'est pas d'accord avec ça. Ils sont pas d'accord parce que ça va pas assez loin. Puis d'un autre côté, t'as les promoteurs qui disent, nous, on n'est pas d'accord parce que ça va trop loin. Alors, mais il faut qu'on trouve une autre solution.
Là, j'ai une question pour vous deux. Parce qu'on a déjà parlé, exemple, de la volonté de la ville de faire en sorte que des jeunes familles restent à Montréal ou encore reviennent à Montréal. C'est pas scientifique, mon affaire, là, mais je reçois beaucoup de courriels de gens qui, avec la pandémie, le confinement, se sont comme interrogés sur l'espace qu'ils occupent. Et, tu sais, en voulant dire... Tu sais, là, c'est-tu ici que j'ai vraiment envie de vivre ça? Pas qu'il va y en avoir nécessairement une autre, là, à chaque année, mais c'est comme une prise de conscience de l'environnement. Puis il y a des gens qui disent, je pensais revenir en ville, mais je suis plus certain. Ou encore... Là, c'est plus juste une question de revenus, puis c'est plus juste une question d'accès, là. C'est un peu plus philosophique.
Sur la qualité qualité de vie. Ben, ouais. Je comprends. Écoute, l'été va être incomparablement meilleur en banlieue qu'en ville cet été. J'entends beaucoup de monde hurler contre les corridors cyclistes et piétons. C'est à peu près la seule option qui restait pour donner de la qualité de vie à la ville, parce que sinon, t'es confiné dans un logement, les parcs sont bondés, les piscines seront peut-être pas ouvertes. Je pense que la personne qui a une cour avec une piscine puis la possibilité d'avoir 10 personnes qui de trois familles différentes à l'extérieur au barbecue sont gagnants, là. Faut pas, ils sont vraiment
mais
gagnants.
Exemple, ce qu'ils prévoient pour le quartier des spectacles, là, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que Monique Simard a annoncé hier avec ce que Catherine nous rapportait tantôt, là, pas de spectacle comme tel, mais il y aura des performances sans avertissement là, pour pas qu'il y ait de rassemblement. Ils vont vont planter des arbres, un aménagement. Au moins, ils vont avoir de la vie.
C'est correct. C'est cool qu'il y ait quelque chose, mais à long terme, la question de long terme se pose. S'il y en a une deuxième vague, puis tu as vu en Corée du Sud, ils détestent dire ça, là, mais comme c'est les champions de la COVID, ce matin, là, ils ont un nouveau secteur en éclosion, puis ils ont décidé de confiner 4100 personnes, puis ils disent que s'ils dépassent 50 cas de COVID, ils vont être obligés de remettre le confinement. Eux, ils sont à 50 cas, nous autres, on est à 600 cas, moyenne par jour. Et on espère. Il y a quand même des bonnes nouvelles, là, mais on espère que ça ne durera pas, parce que si ça dure, la question de long terme est posée. On est sans doute mieux dans une maison avec une cour que dans un appartement pas de cour, dans certains cas pas de balcon. Mais de toute manière, la question est profonde. À long terme, la question est aussi posée, là. Comment tu fais pour accéder à la propriété à Montréal? Comment tu fais pour avoir un peu de qualité de vie? Parce que si tu as un beau logement avec près d'un parc, avec une rue commerciale, c'est pas battable. C'est pas battable.
C'est sûr.
Mais qui peut accéder à ce pas battable-là? Puis qui va se ramasser plutôt sur le bord de l'autoroute? Regarde à Toronto, là, une ville qui est beaucoup plus avancée que nous dans la dégradation de son marché, l'accès à la propriété. De plus en plus, des reportages qui indiquent que de plus en plus de monde préfère dormir, acheter loin, très loin, mais tellement loin qu'ils ne peuvent pas rentrer le matin. Alors, quelques jours par semaine, préfèrent dormir dans leur voiture. Et puis là, on ne parle pas de gens pauvres. Les personnes interviewées, c'était un policier puis un plombier. Il y avait, et à San Francisco, ils s'aménagent des stationnements sur les bords des routes ou dans des terrains de stationnement surveillés par la police, c'est permis. Les gens dorment dans leurs véhicules de camping. Encore là, dans ça, il y a des gens pauvres, mais il y a des gens qui ont une maison, sauf qu'elle est à 3 heures de San Francisco.
Écoute, quand tu regardes là ce qui s'est vendu à Montréal dans les dernières années, c'est beaucoup des logements de 350 pieds carrés. Puis dans une perspective où tu sortais le soir, puis tu étais capable de manger dans un food hall, dans une foire alimentaire, puis tu sortais, puis c'était le fun là. Là maintenant, dans ton 350 pieds carrés, non seulement tu peux pas aller manger à l'extérieur, ou du moins tu peux pas manger réellement à l'extérieur, en plus de ça, tu es obligé de mettre ton bureau dans ton 350 pieds carrés. Fait que là, écoute, c'est complètement la plus grande pénurie qu'il y a au niveau du logement à Montréal, c'est des logements de 3 chambres et plus. Donc, on n'est absolument pas fait aujourd'hui pour accueillir des familles. Alors, non seulement il va falloir autoriser les terrasses cette année, mais je peux te dire une affaire, les petites piscines gonflables, là, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de pouvoir les autoriser à l'extérieur sur les trottoirs pour que les enfants puissent se rafraîchir, parce que ça aussi, ça va être tout un enjeu. Je veux rapidement une piste, là, je pense qu'il faut regarder. Aujourd'hui, là, on sort, on fait de la taxe de bien bienvenue. On charge aux gens qui arrivent. Moi, je me demande si on devrait pas changer ça pour de la taxe d'au revoir, l'augmenter un peu et allouer cet argent-là directement au logement social.
T'es bien parti, mais quand tu le dis l'augmenter, ça, j'ai moins aimé ça.
Ah, ben oui, mais juste un petit peu.
Non, mais
parce que
ça.
Tu fais tellement d'argent en vendant ta maison, d'après moi, c'est une bonne solution aujourd'hui parce que de toute façon, c'est ce que la ville fait avec son programme 20-20-20. Ils ont augmenté les taxes, mais là, ils concentrent ça sur des nouveaux propriétaires avec des règles qui font ni queue ni sens parce que tu ne gères pas la revente de ton logement abordable au bout de 5 ans. Ça marche pas, là.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va parler de ce qui se passe dans les universités. Alors, tout le questionnement pour la rentrée virtuelle, partiellement virtuelle, souhaitée physique. En tout cas, semble pas que ce soit possible à 100% avant décembre. Et l'impact sur la diplomation. On va aller voir ce qui se passe sur la 20 maintenant.